Le monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Le Burkina Faso a suspendu ce jeudi les activités du NRC, le Conseil norvégien pour les réfugiés dans la région du centre-nord. L'ONG est accusée de jeter le discrédit sur le gouvernement selon des autorités régionales. C'est la première fois que les autorités burkinabées suspendent les activités d'une ONG internationale dans cette région, en proie depuis 2015 à une grave crise humanitaire avec la présence de près d'un demi-million de déplacés internes ayant fui les violences djihadistes. En République démocratique du Congo, le journaliste congolais Sostène Kambidi, arrêté le 20 septembre à Kinshasa, a comparu hier comme témoin à Kananga, dans le centre du pays, à une audience du procès sur le meurtre en 2017 des deux experts de l'ONU, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, a dit son avocat. Le président du tribunal militaire nous a finalement fixé sur le statut de Sostène Kambidi, nous disant qu'il n'est pas inculpé et n'est pas un prévenu. Il comparaît comme simple renseignant, c'est-à-dire témoin, a déclaré à l'AFP maître Dominique Kambalé. L'interrogatoire a porté sur les détails du déroulement de ce double meurtre que le journaliste connaissait quelques heures seulement après les faits, et la possession de la vidéo de ce meurtre, a ajouté l'avocat. Un tribunal rwandais a condamné hier une youtubeuse critique du pouvoir du président Paul Kagame à 15 ans de prison pour incitation à la violence et à l'insurrection, dénigrement des mémoriaux du génocide, propagation de rumeurs et agressions. Il était reproché à Yvonne Idamangé d'avoir, sur sa chaîne YouTube, accusé le président Kagame et son gouvernement, je cite, d'avoir mis en place une dictature, d'instrumentaliser le génocide de 1994 sans venir suffisamment en aide aux survivants ou d'avoir transformé les mémoriaux du génocide en attractions touristiques. Fin de citation. Fait en principe aujourd'hui, des consultations entamées hier à Rabat entre des délégations du Haut Conseil d'État libyen, instance faisant office de Sénat, installée à Tripoli dans l'ouest, et du Parlement qui siège à Tobrouk dans l'est, deux instances rivales en Libye. Les consultations portent sur une loi électorale contestée qui attise les tensions entre les protagonistes à 3 mois du double scrutin présidentiel et législatif censé mettre fin à une décennie de conflits. Ratifié le 9 septembre par le président du Parlement de Tobrouk sans avoir été soumise au vote, cette loi est dite taillée sur mesure pour l'homme fort de l'Est Khalifa Haftar. Des milliers de Soudanais sont descendus ce jeudi dans les rues de Khartoum pour soutenir la mise en place d'un pouvoir civil dans le pays plus d'une semaine après un coup d'État manqué impliquant des officiers de l'armée. Le Soudan connaît une transition difficile depuis l'éviction en avril 2019 de l'ex-autocrate Omar el-Bashir sous la pression de la rue après 10 ans de règne sans partage. Le pays est actuellement dirigé par un conseil souverain composé de civils et de militaires censés assurer la transition vers un pouvoir civil. 15 de la cinquantaine de pays africains ont entièrement vacciné au moins 10% de leur population contre le Covid-19, tandis que la moitié des pays du continent n'en a vacciné que 2% ou moins, a annoncé hier le bureau de l'OMS pour l'Afrique. 9 pays, dont l'Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie, avaient atteint l'objectif des 10% début septembre, et 6 autres ont accéléré le mouvement pour l'atteindre en fin de mois grâce à une augmentation des livraisons de vaccins. Parmi les champions de la vaccination sur le continent, les Seychelles et l'île Maurice ont complètement vacciné plus de 60% de leurs habitants, le Maroc 48%, la Tunisie, les Comores et le Cap-Vert, plus de 20%. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. La suite de nos informations, le président français Emmanuel Macron a qualifié jeudi de honte les accusations d'abandon du Mali par la France portées par le premier ministre de la transition, Choguel Kokala Maïga, à la tribune de l'ONU. Il se dit choqué, qualifiant ses propos d'inacceptables. Les détails avec Nani Talani.
C'est inadmissible, c'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement issu de deux coups d'État, a déclaré le chef de l'État en répondant à la radio RFI en marge du dîner de clôture de la saison Africa 2020 à l'Élysée. Selon M. Macron, la France est exigeante parce qu'elle est engagée et veut lutter contre le terrorisme et pour la sécurité. Nous sommes là parce que l'État malien l'a demandé. Sans la France, le Mali serait dans les mains des terroristes, a-t-il déclaré. Le chef de l'État français dit attendre des dirigeants maliens issus de la junte qu'ils respectent leurs engagements comme la tenue des élections en février, qu'ils arrêtent de mettre en prison les opposants politiques et qu'ils travaillent pour le retour de l'État. Par ailleurs, M. Macron a promis que son pays continuerait les projets de développement au Mali aux côtés de la communauté internationale. Mais ce travail ne peut pas être fait si les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités, a-t-il prévenu. Paris avait déjà fermement condamné ces derniers jours les propos tenus samedi par M. Maïga, qui a affirmé que la réorganisation de la présence militaire française avec la fin programmée de Barkhane représentait une espèce d'abandon en plein vol.
L'armée nigériane nie avoir bombardé des pêcheurs. Elle affirme que sa frappe aérienne qui a visé dimanche dernier un camp de djihadistes situé sur le lac Tchad au Nigeria a été exécutée de façon précise et professionnelle, Jacques Aristide.
Le démenti est loin de convaincre tout le monde. Beaucoup d'habitants, de même que des sources sécuritaires, maintiennent qu'au moins 20 pêcheurs ont été tués accidentellement dans des frappes aériennes sur Daban Massara, un bastion du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Mais l'armée de l'air nigériane déclare qu'aucune communauté civile ne se trouvait dans la ligne de mire. Elle ajoute avoir fait des vérifications pour s'assurer de la présence de terroristes avant de préciser que des hommes portant des vestes de combat et des uniformes ressemblant à ceux des combattants de ce groupe djihadiste ont été vus sans qu'aucune activité de pêche n'ait été repérée. Il y a deux semaines, un raid aérien de l'armée nigériane sur un village de l'état voisin de Yobe avait déjà tué 9 civils. L'armée de l'air avait alors expliqué que son avion de chasse poursuivait un groupe de djihadistes dans la région. Le Nigeria combat depuis 12 ans une insurrection djihadiste qui s'est étendue au Niger, Tchad et Cameroun voisins et a fait au moins 40 000 morts et 2 millions de déplacés. En janvier 2017, au moins 112 personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne sur un camp abritant 40 000 déplacés à Ran, ville près de la frontière avec le Cameroun.
Ici à Washington, après des heures de négociations frénétiques, les chefs démocrates du Congrès américain ont reporté le vote qui était attendu hier pour approuver définitivement un vaste plan d'investissement dans les infrastructures voulu par le président Joe Biden. Le point avec Michel Joseph.
Un accord n'a pas encore été possible entre l'aile gauche du Parti démocrate et les plus centristes. La séance a été ainsi ajournée jusqu'à ce matin, lorsque les négociations se poursuivront afin de réconcilier les démocrates autour de ce plan de 1 200 milliards de dollars et du gigantesque projet de 3 500 milliards de dollars pour réformer en profondeur le tissu social des États-Unis et investir massivement dans la lutte contre le changement climatique, projets cruciaux pour M. Biden. En revanche, le président américain a pu signer plus tôt dans la journée, quelques heures avant l'échéance, un budget temporaire qui évite la paralysie des services fédéraux en prolongeant le budget actuel jusqu'au 3 décembre. Cette loi de finances avait été adoptée plus tôt par la Chambre des représentants et le Sénat avec des majorités confortables. À noter que les parlementaires sont également engagés dans des discussions autrement plus ardues pour éviter que les États-Unis ne puissent plus honorer leurs paiements à partir du 18 octobre, ce qui implique pour le Congrès le relèvement de la limite d'endettement du pays. Un défaut de la première puissance mondiale jetterait la finance internationale en terre inconnue.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
La Banque mondiale appelle les créanciers privés du Tchad à accélérer leurs efforts pour aider le pays à faire face à sa dette. L'institution pointe du doigt tout particulièrement le groupe pétrolier Glencore, auprès de qui N'Djamena avait contracté un prêt de plus de 1,4 milliard de dollars. En raison des difficultés liées à la chute des prix des matières premières ces dernières années, l'État tchadien s'était alors révélé incapable de rembourser sa dette et avait entamé des négociations pour sa restructuration en 2018. L'activité économique en République démocratique du Congo va stagner cette année 2021 selon le Fonds monétaire international. Le FMI prévoit une croissance du PIB aux alentours de 0% avec une inflation modérée de 2%. La pandémie de Covid-19 et les chocs sur les prix du pétrole ont lourdement pesé sur l'économie congolaise, mais une reprise se dessine, précise toutefois le FMI. C'est une première depuis 40 ans. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, s'est rendu hier au Soudan, où il l'a mis en garde contre le risque de dérapage politique et salué des réformes courageuses. Le Soudan connaît une transition difficile depuis l'éviction en avril 2019 d'Omar el-Béchir, sous la pression de la rue, après 30 ans de règne sans partage.
Merci Claire. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, Wilfried Zaha, Gervinho et Nicolas Pépé font leur retour en sélection en Côte d'Ivoire, absent en septembre lors des deux premiers matchs de qualification pour le Mondial Qatar 2022. Ces trois cadres de la sélection ivoirienne figurent sur la liste dévoilée par le sélectionneur Patrice Baumel pour la double confrontation face au Malawi les 7 et 10 octobre à la faveur de 3e et 4e journée. La Côte d'Ivoire est en tête de son groupe après son nul 0-0 face au Mozambique et sa victoire 2-1 contre le Cameroun. Le Malawi accueillera les Ivoiriens à Johannesburg en Afrique du Sud. Le match à domicile de la Côte d'Ivoire se jouera à Cotonou au Bénin, faute de stade homologué en Côte d'Ivoire. Boxe, 5 des 6 médailles françaises lors des JO 2016 de Rio figure parmi les combats suspects de manipulation des arbitres, révèle une enquête indépendante du juriste canadien Richard McLaren. Son équipe a confirmé l'existence, soupçonnée depuis des années, d'un système de tricherie orchestré au sein de la Fédération internationale et a identifié 11 combats suspects lors du rendez-vous olympique brésilien. Parmi eux, les finales remportées par Tony Yoka face au Britannique Joe Joyce dans les plus de 91 kilos et par sa compagne Estelle Mosseli contre la Chinoise Junhua Yin dans les moins de 60 kilos. Les conclusions de l'enquête seront remises à la Fédération internationale de boxe qui devra déterminer si ces combats ont effectivement été manipulés, a indiqué Richard McLaren. Le nouveau patron de la Fédération de boxe élu fin 2020, le russe Umar Kremlev, a promis d'examiner attentivement le rapport et voir quelles mesures sont nécessaires pour garantir la justice. Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, prévus du 4 au 20 février 2022, se tiendront sans spectateurs étrangers et seront donc réservés au public chinois en raison de la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a annoncé le CIO, Comité international olympique. Selon l'instance, seuls les participants pleinement vaccinés seront dispensés de quarantaine et intégreront une bulle stricte. Les autres devront observer 21 jours d'isolement, sauf dérogation au cas par cas, avec un justificatif d'exemption médicale. Alors que la situation épidémique évolue, les options retenues diffèrent de celles de Tokyo. Le huis clos est pour l'heure exclu et le traitement des sportifs dépendra de leur statut vaccinal.
Merci, Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, le chef de la junte au pouvoir prête serment aujourd'hui comme président de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales qui ont renversé le président Alpha Condé le 5 septembre, sera investi au palais Mohamed V à Conakry. La junte a affirmé sa volonté d'organiser des élections libres et démocratiques à l'issue d'une transition dont elle n'a pas précisé la durée, malgré les pressions de la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint à Conakry le politologue cabinet Fofana.
Ce qui va changer, c'est que le colonel Doumbouya va se voir légaliser le pouvoir. À la suite de la prise du pouvoir, on a remarqué une forme de légitimation de son pouvoir par les scènes de liens par-ci par-là et des discours politiques. Donc la personne politique a quasiment validé son putsch à travers donc, la prestation de serment.
On sait que l'Assemblée nationale est dissoute, hein. Il n'y a pas encore de gouvernement. Comment il va diriger le pays sans ces organes-là? Il aura les pleins pouvoirs, le super chef d'État?
Logiquement, le gouvernement devra suivre rapidement. Même si cela n'arriverait pas dans la foulée, continuer à gérer à travers des ordonnances et des décisions ont été prises par ordonnance. Donc c'est un peu cela le contexte exceptionnel, quoi.
Est-ce qu'il y a un profil du Premier ministre qui se dégage?
Il n'y a pas assez de légitimité là-dessus, à part simplement que dans la charte, il est dit que le Premier ministre devrait être quelqu'un dont les compétences sont reconnues et qui soit d'une probité morale irréprochable. À part ça, une étude qui a été réalisée par l'Association d'innocence politique a été donc une étude, un sondage d'opinion à l'échelle nationale où à près de 60% les populations sondées sont plutôt d'accord pour que le premier qui sera nommé soit de profil politique.
Selon vous, quelle devait être la première action à poser par le colonel Mamadou Doumbouya une fois investi chef de la transition officiellement?
C'est de nommer un premier ministre. Lequel premier ministre va présenter une ossature du gouvernement et dans la foulée que l'ameublement du gouvernement soit suivi. Et cela va donc permettre au colonel d'entrer dans la transition proprement dit. Il devra suivre d'autres objectifs, mais je pense que la décision première, c'est de nommer un premier ministre.
Le problème récurrent qui se pose, c'est par rapport à la durée de cette transition-là. Une fois Mamadou Doumbouya investi chef de l'État, ce serait pour une durée indéterminée en attendant?
La charte est laisse sur la durée. Il est possible que les forces vives et le CNRD se retrouveront pour déterminer. C'est un risque. C'est un risque que l'on ne sache pas, en gros, la périodicité de la transition. Je pense que, à la suite de sa prestation de serment, donc de son entrée en activité, cet échange-là devrait avoir lieu en vue donc, de déterminer la durée de la transition. Parce que ce qui n'est pas très logique dans la charte, c'est qu'on a déterminé l'émission de la transition. En principe, on devrait normalement savoir sur quelle durée cela devait se faire. Parce qu'en gros, les transitions, on sait de façon générale ce à quoi elles se rapportent en termes de travail, c'est clarifier la constitution ou élaborer une nouvelle constitution, organiser les élections, travailler à la justice sociale. Il faut normalement que cela soit suivi pour éviter toute suspicion.
Le politologue cabinet Fofana joint à Conakry.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Bénin, une nouvelle phase s'annonce pour la décentralisation après 20 ans d'expérience. Selon le projet de réforme de la décentralisation dévoilé le 21 septembre, l'accent sera désormais mis sur la bonne gouvernance, avec notamment le retrait de la gestion financière aux maires des communes. Des réformes auxquelles tient le président Patrice Talon, qui veut assainir la vie des collectivités locales. Davantage de précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Après les réformes politiques et institutionnelles au niveau de l'État central, c'est le tour des collectivités locales. Patrice Talon s'attaque à la décentralisation avec un projet de modernisation qui va bousculer les habitudes au niveau des communes. Le président de la République a défendu son projet devant maires et préfets réunis à Cotonou à cet effet. Point crucial du document, le retrait de la gestion financière aux maires des communes. Pour Patrice Talon, des réformes sont indispensables pour relancer la machine de la décentralisation qui stagne.
Si on n'améliore pas la gouvernance au niveau local, nous ne pouvons pas progresser dans la gouvernance. Or, la décentralisation est un meilleur moyen de gérer la nation. Il faut que la décentralisation progresse, avance dans tous les domaines. Mais soyons sincères, est-ce que la manière dont nos commissions gouvernent aujourd'hui, elle est suffisamment satisfaisante? Moi, je refuse qu'en mon temps, je croise les bras et que je m'en aille dans quelques, ou plus tard 2026, et que, au bilan, on observe que j'ai laissé intact ce que je suis venu trouver.
C'est après 3 mois de recherche et d'études que le comité mis en place a présenté ses propositions aux auteurs de rayonnement et de renaissance des 77 communes que compte le Bénin. Pour le ministre de la décentralisation, il était nécessaire de changer la donne parce qu'en 20 ans, la décentralisation a créé plus de tort que de bien au développement local. Raphaël Akoteyon est le ministre de la décentralisation.
Force est de constater qu'au niveau de la gouvernance local, nous traînons encore plusieurs handicaps, notamment un management tributaire des pesanteurs politiques, un personnel souvent inadéquat et inadapté, un système local de gestion des marchés publics inefficace et corrompu, une gestion budgétaire peu satisfaisante, une fiscalité locale peu adaptée aux enjeux de la décentralisation.
La réforme envisagée par le gouvernement est innovante et pertinente, selon David Irelikaba, expert en décentralisation. Pour lui, elle permettra d'avoir des communes dynamiques et capables d'impulser le développement à la base.
Ce qui m'a principalement touché, ce sont les principes directeurs de cette réforme-là. Il s'agit premièrement de séparer les fonctions politiques de celles administratives et techniques pour améliorer non seulement la réduction des comptes, mais pour lutter efficacement contre l'impunité. Dans l'ancienne version, le maire est une autorité politico-administrative. Il avait entre ses mains concentré tous les pouvoirs, il était surpuissant. Moi, j'avais déjà vu cela à travers notamment les crises de confiance qui ont ébranlé plusieurs communes. Nous savons ici les phénomènes, l'épidémie d'institution dans les communes, nous avons connu ça. Ça a été une douloureuse époque pour nous.
La réforme ne change pas les compétences des communes. Toutefois, il faudra s'attendre à une redistribution des compétences et un dimensionnement des services communaux selon les statuts. Les députés adhèrent à la proposition et promettent de jouer leur part pour que cette réforme soit une réalité.
Il fallait crever l'abcès. Vous avez pu constater jusque-là que la plupart de nos communes peinent à décoller.
Ce qui va changer, c'est le mode de gestion.
Je pense que ça va faciliter les travaux en commission et ça va nous permettre de mieux comprendre et d'aller plus vite. Je ne viole aucun secret en disant que tel que ça a été présenté, si les amendements proposés sont pris en compte, je pense qu'à l'Assemblée, ça pourra facilement passer.
Certains spécialistes plaident pour la nécessité d'un dialogue entre les différents acteurs politiques afin que ces nouvelles réformes n'en rajoutent pas à la situation politique déjà tendue au Bénin. De Cotonou, Zinat Fladoné pour VOA Afrique.
En Tunisie, l'universitaire Najla Boudène Romdane a été nommée première ministre par le président Kais Saied. Docteur en géologie peu connue du grand public, elle devient à 63 ans la première femme à occuper ce poste dans son pays. Madame Romdane devra former un nouveau gouvernement, mais aussi faire face à des défis urgents, dont le Covid-19, le chômage, la corruption et surtout les finances et l'économie, dans un pays très endetté, dépendant des aides internationales. Saura-t-elle affronter ces urgences? Pour en discuter, Nani Talani a joint à Tunis Mourad Selima, analyste et rédacteur en chef de la plateforme The Voices.
C'est d'abord et surtout la situation financière d'abord pour avoir quelque chose encore à réunir, près de 2 milliards de dollars pour boucler le budget 2021. Donc c'est pas facile. Et ensuite, socio-économique, dans la mesure que le pays est vraiment en panne de nouvelles idées sur le plan socio-économique pour un véritable démarrage au profit du peuple, comme le dit le président.
Est-ce que Mme Boudène pourra être en mesure de continuer la lutte contre la corruption?
Mme Boudène, au moins, elle a le préjugé favorable d'être en dehors de ce réseau de corruption. Elle n'a pas été salie par cette corruption, donc elle ne saurait qu'être en bonne position pour continuer la lutte. Le reste, c'est une œuvre de toute la société, aussi bien l'administration que la société civile. Mme Boudène ne peut pas faire à elle seule la plus pluie et le beau temps. Madame Boudin va essayer de mettre un programme de sauvetage et c'est à la société entière, politique et société civile, de réussir ce programme.
Beaucoup de personnes mettent en doute sa capacité à faire face à tous les énormes dossiers à cause de son manque d'expérience, disent-ils.
Durant la dernière décennie, une dizaine de chefs de gouvernement n'ont obtenu le moindre résultat pour la Tunisie. On est pratiquement resté au point zéro par rapport aux objectifs de la révolution. De deux, juste après la révolution, le gouvernement de la Troïka, de Hamadi Djibeli et Ali Larraya, tous les membres de ce gouvernement n'avaient la moindre expérience ni administrative ni politique. Madame Boudin, elle au moins, elle est directrice générale et elle a géré des projets de la Banque mondiale pour la Tunisie en matière de qualité de l'enseignement. Donc on peut lui accorder la responsabilité et espérer qu'elle réussisse. Il faudrait l'aider à réussir plutôt et l'aider à combler, disons, les faiblesses de son projet plutôt que dire qu'elle ne va pas réussir. Non, c'est une femme, c'est un cadre d'administration qui n'a pas d'expérience politique ni qui n'est pas immixée dans la corruption. Donc, on peut lui accorder sa chance.
Mourad Selima, analyste et rédacteur en chef de la plateforme de Voices, joint à Tunis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Afrique du Sud, les adolescents des townships customisent leurs vélos et les adaptent notamment pour pouvoir tourner sur eux-mêmes. Cela s'appelle du spinning, du nom d'un sport automobile né pendant la lutte anti-apartheid. Valérie Hirsch a assisté à la deuxième compétition de vélos customisés organisée à Soweto.
Dans un parc de Soweto, des jeunes participent à une compétition de spinning. Ils font tournoyer sur eux-mêmes de longs vélos bas composés de deux ou trois cadres soudés ensemble. Les étiquettes de canettes sont collées sur la roue arrière pour la faire glisser. Le corps plongé vers l'avant, Pumelo Ramasekla, 14 ans, est acclamé par une centaine de spectateurs et gagne la compétition.
I'm very proud.
Je suis très fier. Je ne sais pas où ce tournoi va nous amener, mais cela peut aller loin. Cela nous distrait des mauvaises choses, comme la drogue et d'autres choses. Nous encourageons les autres à faire des choses positives. Je rêve de devenir un pilote de course et cela va peut-être m'y amener.
Le spinning à vélo est une activité récente. Il imite le spinning automobile développé par des gangsters de Soweto dans les années 80 au volant de BMW série 5 et 7 volés dans les quartiers blancs. Camorello Bon, 22 ans, est l'un des organisateurs de la compétition.
C'était fait par les gangsters au départ et puis cela a évolué. Le spinning automobile est entré dans des sports publicitaires comme Red Bull et c'est devenu un sport reconnu. Et ce que nous essayons de faire, c'est du spinning avec des vélos pour encourager les jeunes et leur donner de l'espoir.
Les accidents sont fréquents. Selon un journal local, le spinning aurait déjà fait une victime à Soweto. D'autres jeunes préfèrent la version plus calme des vélos bas, sans selle, customisés avec divers accessoires, guidons rehaussés, rayons en aluminium, poignées tournantes et haut-parleurs. Fanan Klangla a remporté le premier prix de cette catégorie avec son vélo rouge au rayon multicolore.
J'ai dû supplier pendant longtemps pour qu'il me donne de l'argent. Ce n'est pas juste le vélo, c'est pour impressionner les gens. Plus tard, on achètera des voitures basses avec de grosses tonneaux. Mon rêve est d'ouvrir un jour un garage de voitures pour les customiser.
Les organisateurs ont aussi prévu un défilé de vélos customisés contre les violences à l'égard des femmes. Ils veulent faire passer le message que le vélo s'écoule dans un pays où la voiture est reine.
On essaie de leur dire que le vélo, c'est économique. Et non seulement c'est pour la santé, mais aussi pour l'environnement.
Très peu de Sud-Africains, même parmi les jeunes, sont conscients des enjeux du réchauffement climatique. La petite reine a encore beaucoup de chemin à faire. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Voilà Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.